France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. C'est un séisme pour le Rassemblement national. Condamné dans l'affaire des assistants parlementaires européens, Marine Le Pen fait appel, mais il semble improbable qu'elle puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle. Nous allons revenir avec Florence Turmes sur les motivations du tribunal. Quelles conséquences aura cette condamnation qui suscite déjà de vives réactions ? Nous ferons le point avec le service politique. Rachida Dati la juge indispensable, mais la réforme de l'audiovisuel public portée par la ministre de la Culture inquiète. Les salariés de Radio France, France Télévisions, France Média Monde et l'INA sont appelés à la grève. Fiona Mogadam vous expliquera pourquoi. Une semaine nationale de deuil décrétée en Birmanie après le violent tremblement de terre qui a frappé le pays vendredi. Le bilan est encore très incertain mais dépasse les 2000 morts. Et puis nous irons en Autriche où les réfugiés syriens risquent de perdre leur statut. Alors que la situation en Syrie reste instable, ils craignent d'être expulsés. Nous entendrons le reportage d'Isorias. C'est un coup à la démocratie, affirme l'avocat de Marine Le Pen. Il annonce que sa cliente va faire appel et qu'elle est combative. C'est pourtant un gouffre qui s'est ouvert sous les pieds de Marine Le Pen. Dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, la chef de file du Rassemblement national est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 100 000 euros d'amende. Une peine qui risque donc d'empêcher celle qui se positionnait comme candidate naturelle à la présidence de se présenter. Nous allons revenir sur les conséquences de cette décision judiciaire et elles sont majeures. Mais avant, il semble indispensable d'expliquer ce jugement. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Vous étiez ce matin au Palais de Justice de Paris. Avant de lire le jugement, la présidente du tribunal a prévenu que ce serait long. Elle a tenu à souligner que le tribunal procédait comme d'habitude, en donnant un certain nombre d'explications sur la décision prise. Et la lecture a effectivement duré plus de 2 heures, Florence.
Et que les choses soient claires, commence la présidente Bénédicte de Pertuis, personne n'est jugé pour avoir fait de la politique, ce n'est pas le sujet. La question est de savoir si le travail des assistants parlementaires était en lien avec le mandat de leurs députés européens. Et pour le tribunal, aucun doute, il s'agit de contrats fictifs, d'un système organisé. L'expression avait hérissé Marine Le Pen durant l'audience. Dans son jugement, le tribunal insiste, un système optimisé pour permettre aux partis, alors en difficulté financière, de faire des économies grâce au Parlement européen. 40 contrats pour 12 assistants et 9 députés, tous déclarés coupables. Marine Le Pen s'est inscrite avec autorité et détermination dans le fonctionnement instauré par son père. Pas d'enrichissement personnel direct, mais en contournement des règles démocratiques, une double tromperie à l'égard du Parlement européen et des électeurs. Face à la gravité des faits, la peine d'inéligibilité a vocation à être prononcée, poursuit la présidente. Reste la question de l'exécution provisoire, question singulière dans cette affaire, car décision rendue au nom du peuple français, rappellent les juges. Ils soulignent non seulement le risque de récidive, mais aussi le trouble majeur à l'ordre public. 10 ans plus tard, les prévenus contestent toujours les faits et même la loi. Bruissement dans la salle comble, exécution provisoire prononcée, comme l'a requis le ministère public. Marine Le Pen n'attend pas la suite. Ses talons claquent. Elle quitte le tribunal avec l'eurodéputée Catherine Grisé, elle aussi condamnée.
Une relance exécutoire provisoire qui se traduit donc pour Marine Le Pen par une inéligibilité immédiate.
Oui, car si Marine Le Pen a déjà annoncé, vous le disiez, qu'elle allait faire appel de sa condamnation à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique et 100 000 euros d'amende, ces 5 ans d'inéligibilité, eux, s'appliquent immédiatement. Dans sa décision, le tribunal explique avoir sous-pesé le caractère nécessaire et proportionné de cette exécution provisoire, mise en balance de risques. D'un côté, voir des personnes élues alors qu'elles ont été condamnées pour détournement de fonds publics. De l'autre, une peine infirmée en appel. En pratique, il faudra compter de 1 à 2 ans pour organiser ce second procès. Dans le meilleur des cas, pas de décision possible avant l'automne 2026, ce qui comprenait sérieusement l'entrée en course de Marine Le Pen dans la présidence.
Merci Florence Turm. Précisons que Louis Alliot, vice-président du RN et maire de Perpignan, est lui aussi condamné à une peine d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire. Il peut donc aller au bout de son mandat. Marine Le Pen, elle, risque donc de ne pas pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle, ce qui fait évidemment beaucoup réagir. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Marine Le Pen n'a pas encore dit un mot. Elle sera ce soir l'invitée du 20h de TF1, mais autour d'elle, on s'indigne.
C'est la démocratie française qui est exécutée pour le patron du RN, Jordan Bardella. Même mot pour Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Des juges, écrit-elle, ont décidé d'exécuter dans un tribunal celles qu'ils n'ont jamais pu faire reculer dans les urnes. Le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, ne dit pas autre chose.
Nous avons bien compris que le système était dans des soubresauts qui voulaient l'empêcher qu'une candidate et les électeurs se rencontrent. On voit bien qu'il y a une volonté politique derrière et qu'on est bien au-delà simplement du fait de dire la loi.
Intrusion dans le jeu électoral, dénonce aussi Louis Alliot, vice-président du parti et lui-même condamné dans l'affaire. Confiscation du destin démocratique de notre nation, pose encore l'allié Éric Ciotti. Mais l'extrême droite n'est pas la seule à défendre Marine Le Pen. Le chef des députés LR, Laurent Wauquiez.
Il n'est pas sain que dans une démocratie, une élue soit interdite de se présenter à une élection. C'est les Français qui doivent décider. Et là, cette décision, nécessairement, va avoir un poids très lourd sur le fonctionnement de notre démocratie.
Cette ligne parvient aussi à mettre d'accord Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Pour le président de Reconquête, ce n'est pas au juge de décider pour qui doit voter le peuple. L'insoumis considère dans la même veine que la décision de destituer un élu doit revenir au peuple.
Jean-Luc Mélenchon, isolé à gauche, Rosalie.
Oui, François Ruffin, par exemple, un temps chez les insoumis, tient, dit-il, à remettre les pendules à l'heure.
Marine Le Pen n'est pas victime, elle est coupable.
Et dans cette culpabilité, dans cette condamnation, chez les écologistes, on voit plutôt le signe, selon la présidente du groupe à l'Assemblée, Cyrielle Chatelain, d'un système judiciaire qui fonctionne.
Un système judiciaire qui applique la loi de la même manière qu'on soit puissant ou qu'on soit faible.
Le Parti Socialiste appelle d'ailleurs chacun à respecter l'indépendance de la justice et de l'état de droit. Emmanuel Grégoire, un de ses porte-parole.
Les juges sont formés pour porter un jugement et à aucun moment on ne peut s'exonérer du respect de la loi. Sous un prétexte de légitimité démocratique, ça n'existe pas.
Parce que sinon ça soulève d'autres questions pour l'ancienne ministre macroniste Prisca Thévenot.
À partir de combien dans les sondages on estime qu'on est au-dessus des lois?
Ce sont les parlementaires eux-mêmes qui ont donné cette latitude aux juges, rappelle le groupe Modem, qui n'est pas contre rouvrir le débat, mais dans le cadre du Parlement et uniquement celui-là.
Et François Bayrou a été troublé par l'énoncé du jugement, c'est ce que dit son entourage. Mais le Premier ministre n'entend faire aucun commentaire sur une décision de justice. À l'international aussi, les réactions fusent, en provenance surtout de l'extrême droite. Sur le réseau social X, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, écrit « Je suis Marine ». Aux Pays-Bas, Geert Wilders se dit choqué par un jugement incroyablement sévère. À Moscou, le Kremlin déplore, je cite, « une violation des normes démocratiques ». Enfin, depuis les États-Unis, le milliardaire Elon Musk dénonce un abus du système judiciaire. Nous reviendrons sur ses réactions internationales dans le point d'actualité de 19h. Mais revenons en France pour l'instant pour tenter de mesurer les conséquences politiques de la condamnation de Marine Le Pen. Conséquences sur la prochaine élection présidentielle. Bonsoir Stéphane
Bonsoir
Robert.
Bonsoir Aurélie.
Elles sont potentiellement très importantes, ces conséquences, et plutôt en faveur ou en défaveur du Rassemblement National?
Eh bien, le Rassemblement National a décidé de se victimiser. Jordan Bardella dénonce dans un message sur X, anciennement Twitter, publié il y a quelques minutes, la dictature des juges. D'un côté, c'est de nature à galvaniser son électorat et à mobiliser une partie des abstentionnistes sensibles au discours anti-système. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jordan Bardella, dans le même message, lance un appel à une mobilisation populaire et pacifique, autrement dit à des manifestations. Mais cette décision pourrait aussi mettre un coup d'arrêt à la stratégie mise en place par le RN de conquête de nouveaux électorats, selon l'analyse qu'en fait le politologue Luc Rouban, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po.
Si vous voulez, leur électorat n'est pas extensible non plus à l'infini. Maintenant, il a fait le plein des catégories populaires, en quelque sorte. Donc maintenant, son terrain d'expansion, ce sont les catégories moyennes et supérieures. Et là, vous avez des représentations qui sont différentes. Vous allez avoir aussi un regard, quitte à un regard peut-être un peu moins défiant vis-à-vis de la politique. Et je dirais, du côté des catégories populaires, il ne faut pas non plus sous-estimer que vous avez une culture très sévère en ce qui concerne les transgressions du droit.
L'un des principaux problèmes du Rassemblement National, selon Luc Rouban, est le déni et la négligence dont Marine Le Pen a fait preuve dans cette affaire, ce qui va donner des arguments à ses adversaires politiques et en particulier à droite, au parti Les Républicains.
Vous avez une situation qui d'abord avait été sous-estimée, enfin qui avait été niée, puis ensuite sous-estimée, et on peut penser que Les Républicains joueront sur cet argument en disant, mais vous savez, s'ils se conduisent en amateurs pour leurs affaires internes, comment vont-ils se conduire pour les affaires internationales, les affaires de la France? Et dans le fond, le grand enjeu aujourd'hui, c'est la convergence des droites et la création d'un parti dominant à droite. Alors la question, c'est où ce sont Les Républicains ou c'est le Rassemblement National? Jusqu'à présent, le Rassemblement National était parti en tête. et maintenant il va perdre du terrain. Cet enjeu crucial de maîtrise du centre de gravité des droites va certainement profiter plutôt aux Républicains.
Potentiellement, cette décision est de nature à rebattre les cartes du jeu politique à droite, mais aussi peut-être également à gauche, où l'un des ferments de l'Union est la lutte contre le Rassemblement national.
Merci Stéphane Robert. Après la CGT aujourd'hui, l'ensemble des syndicats de Radio France appellent à la grève demain. Les syndicats de médias publics sont unanimes pour dénoncer la réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public qui doit être examinée en commission à l'Assemblée demain. Un texte qui tarde toujours à être adopté, Fiona Mogadam, mais que la ministre de la Culture, Rachida Dati, juge aujourd'hui indispensable.
Cela fait 5 ans que le gouvernement prévoit de réformer la gouvernance de l'audiovisuel public. Mais le confinement en 2020, la dissolution de l'Assemblée nationale l'an dernier, puis la censure du gouvernement Barnier ont à chaque fois eu raison de ce texte. Pour le moment, il est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans 10 jours, mais le calendrier est serré et il n'est pas sûr qu'il puisse être examiné. La proposition de loi prévoit de créer une holding France Média qui regrouperait au moins France Télévisions, Radio France et l'INA. France Média Monde devrait en être exclu, c'est en tout cas le souhait du gouvernement. Le gouvernement qui, la semaine dernière, a transmis à la Commission Culture de l'Assemblée nationale l'étude d'impact de la mise en place de cette réforme. Elle affirme que la création de la holding n'engendrerait aucun coût et elle dévoile le projet du gouvernement qui va plus loin que la proposition de loi. Il n'y aurait plus qu'un seul PDG, il serait mis fin au mandat des PDG actuels. France Info, la télé et la radio seraient regroupées avec un rapprochement géographique également. Même chose pour France 3 et ici, les locales de Radio France. Une mutualisation des ressources humaines, des services administratifs et financiers est aussi évoquée et permettrait de faire des économies. Un projet qui ne rassure pas les syndicats, déjà vent debout contre cette réforme. À Radio France, l'intersyndicale estime que ce projet aura pour conséquence de démanteler notre entreprise en la plaçant sous la tutelle de France Télévisions. À France Télé, les syndicats s'inquiètent des graves conséquences il est adopté.
Mobilisation dans l'audiovisuel public, grève également à France Travail demain. Alors que les nouvelles règles de l'assurance chômage entrent progressivement en vigueur depuis plusieurs années, les syndicats dénoncent une forte dégradation des conditions de travail et des salaires insuffisants, au point que pour les conseillers de France Travail chargés d'accompagner les demandeurs d'emploi, le métier perd de son sens. C'est ce qu'a expliqué Mirabel Lemaire, déléguée FSU Emploi à l'Aura du Lieu.
À partir du moment où on a sectorisé, séparé le conseiller entreprise du conseiller à l'emploi, on a forcément une moins bonne connaissance du terrain des entreprises et vice-versa. Les usagers ne sont pas contents. Si on ne vous propose que des formations en POEI, donc préparation opérationnelle à l'emploi, mais qui sont uniquement en adéquation avec le marché du travail, eh bien il y a plein de métiers qui n'existeront plus. C'est pas bon de faire des choses qui sont juste en adéquation avec le marché du travail un instant T. Je pense aux gens qui sont tireurs de câbles. Vous savez, pour la fibre et tout ça. Bah oui, mais quand tout le monde va être fibré, il va se passer quoi avec ces gens qui ont des formations à minima pour faire tireurs de câbles? Ou bien des métiers comme maçon. C'est un grand métier, maçon, on fait beaucoup de choses. Mais si on ne veut que des gens qui montent des murs, eh ben ils n'apprendront qu'à monter des murs. Ils ne pourront pas trouver de reconversion. On est plus formé maintenant à envoyer vers des prestataires que à réellement construire un projet professionnel avec quelqu'un. Le but de mon travail, c'est de faire que les gens retrouvent un emploi pérenne, donc un CDI à temps complet, pour que les gens puissent ensuite mener leur vie, payer des impôts, participer à la vie de la société. Or là, le calcul du retour à l'emploi se fait sur des CDD de 6 mois. Donc non, ça c'est pas bon pour notre société.
Plusieurs rassemblements sont donc prévus demain devant les différents sièges régionaux de France Travail. On a appris ce matin la mort du cinéaste engagé Yves Boisset, à 86 ans. Il était qualifié de réalisateur de gauche. Son film le plus célèbre, Dupont-Lajoie, décrivait le racisme ordinaire. Bonsoir Adrien Toffolet.
Bonsoir.
Yves Boisset revendiquait de faire des films insolents et il n'avait pas peur d'attaquer frontalement les institutions.
Oui, Yves Boisset, c'est un cinéma populaire au service des causes justes qu'il met en scène. Michel Bouquet en policier vengeur dans Une brigade corrompue en 1970 dans Un Condé, ou Jean Carmet en vacancier lubrique, menteur et ratonneur en 1975 dans Dupont-Lajoie, ou avec ses téléfilms sur les grandes affaires historiques, l'affaire Cézenec, l'affaire Dreyfus, comme il l'expliquait sur France Culture en 2015 dans un avoué nu qui lui était consacré.
La plupart des héros de mes films sont des gens qui détiennent une vérité et qui se battent pour imposer à la face de leurs contemporains cette vérité, et ce qu'en général, on leur fait payer très cher, puisque vous remarquerez que beaucoup de mes héros meurent ou sont déclarés fous, forcément, puisqu'ils veulent imposer la vérité, c'est qu'ils sont fous. Et la plupart de mes héros sont des gens qui se battent pour la justice et pour la vérité.
Né à Paris en 1939, Yves Boisset se découvre tout jeune homme un goût pour le comique et le drame des vies croisées dans les commissariats qu'il visite comme journaliste fait divers au journal Paris Jour. Formé par Yves Ciampi, Jean-Pierre Melville ou encore René Clément, qu'il assiste sur Paris Brûle-t-il, Yves Boisset prend les commandes à la fin des années 60 avec un cinéma pourfendeur de l'injustice sous toutes ses formes qui lui vaut régulièrement les foudres des ministres de l'Intérieur. Il subit la censure, les menaces de milices de droite et d'extrême droite pour sa dénonciation trop explicite du racisme, des violences policières. Il est également un des premiers et des rares dans le cinéma français à évoquer le sujet hautement sensible de la guerre d'Algérie. C'est d'ailleurs la censure politique puis économique qui le pousse à abandonner le cinéma pour la télévision à partir des années 90, avec de beaux lots de consolation à la clé tout de même, plusieurs sets d'or et la satisfaction d'avoir participé à la réparation d'une injustice quand le gouvernement Jospin, suite à la diffusion de son téléfilm Le Pantalon, a décrété la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale.
Adrien Taufollet, il y a au moins deux Français parmi les victimes du séisme qui a secoué vendredi la Birmanie. La junte au pouvoir fait état de plus de 2000 morts. Le bilan pourrait s'avérer beaucoup plus lourd, mais il est impossible de l'estimer de façon fiable car la Birmanie est l'un des pays les plus fermés au monde. Vous êtes actuellement en Thaïlande, Valentin Dunat, et à Bangkok, vous pouvez constater à quel point la situation politique et militaire complique l'arrivée de l'aide humanitaire.
En effet, ce séisme s'est produit dans un pays en proie à une guerre civile depuis 4 ans. Il y a la junte militaire qui contrôle une partie du territoire et qui a d'ailleurs subi de nombreux revers ces derniers mois de la part de groupes rebelles pro-démocratie et de groupes armés. Le territoire est totalement morcelé, ce qui fait que des centaines, des milliers d'habitants sont livrés à eux-mêmes et doivent sortir les cadavres des décombres. Et pire encore, les militaires continuent de mener des frappes aériennes malgré le séisme. Donc, jusqu'à présent, l'aide humanitaire est fournie par des ONG déjà présentes sur place et surtout des militaires de pays autorisés, la Chine, l'Inde, la Russie. Mais par exemple, une équipe de 126 secouristes taïwanais n'a pas été autorisée à rentrer en Birmanie. Ils ont dû remballer leur matériel. Même chose pour les journalistes étrangers qui ne sont pas autorisés à rentrer.
Merci Valentin Dunat. Une semaine de deuil national a été décrétée en Birmanie. Nous allons enfin en Autriche où l'inquiétude est grande au sein de la communauté syrienne. Dès le lendemain de la chute de Bachar al-Assad, l'Autriche avait annoncé un programme de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie. Alors que la situation en Syrie reste instable, environ 3000 réfugiés syriens vivant en Autriche ont reçu ces derniers mois un courrier les informant de l'ouverture d'une procédure pour le possible retrait de leur statut. L'Autriche a également suspendu le regroupement familiale pour les réfugiés syriens. Des mesures qui créent donc un climat de peur parmi les quelques 100 000 Syriens présents dans le pays. Écoutez le reportage d'Isorias.
Abdelkarim est arrivé en 2021 en Autriche. Ce réfugié syrien raconte avoir d'abord reçu l'approbation pour que ses trois enfants, actuellement en Syrie, puissent le rejoindre ici, avant de recevoir un courrier l'informant que ce regroupement familial n'était plus possible. Dans cette lettre, on l'informait aussi qu'une procédure de retrait de son statut de réfugié avait été ouverte. Aujourd'hui, il dit se trouver dans une situation de grande incertitude et se demande où il irait en Syrie, car sa maison a été détruite par un bombardement et le pays n'est pas encore sûr. Et désormais, ce n'est pas sûr non plus pour lui en Autriche. Il y a de nouvelles mesures tous les jours contre les réfugiés, dit-il. Et il ne sait ni où aller, ni ce qu'il va faire. 3000 procédures de ce type ont été ouvertes à ce jour, créant un climat de peur parmi les 100 000 Syriens vivant en Autriche. Mais ces procédures ont-elles une chance d'aboutir aujourd'hui? Non, répond Lukas Galeitner-Gertz de l'ONG spécialisée Asyl Coordination.
Les derniers développements en Syrie montrent clairement que la situation ne s'est pas consolidée de manière durable. Or, c'est la condition pour qu'un statut de protection puisse être effectivement retiré. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas de décision de retrait aujourd'hui. Le but n'est pas d'annoncer des solutions réellement réalisables, mais d'envoyer un signal qui dit « nous voulons que vous partiez ».
Et le gouvernement autrichien vient d'annoncer son intention d'étendre la suspension du regroupement familial aux autres réfugiés.
Et Zoria Savienne pour France Culture. Le soleil sera encore généreux demain, sauf sur le sud-est où les passages nuageux pourront s'accompagner de pluie. Les températures minimales seront en baisse, comprises entre moins 1 dans l'est et 7 près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera de 13 à 22 degrés. Je précise que ce journal n'a pas été réalisé dans des conditions tout à fait habituelles, en raison du mouvement de grève en cours au sein de l'audiovisuel public contre le projet de holding commune.